Romaine Duvalet, fêtesduforum.com.
Histoire vivante, proposée par Irène Chaland et Jean Leclerc.
Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores.
Cette semaine, révolution et coup d'État. De Santiago à Berne, en passant par Milan, retour sur les réfugiés.
Dans le stade national, c'est là que sont enfermés pêle-mêle les suspects et les détenus politiques.
Déjà maintenant, nous pouvons confirmer qu'un très grand nombre de réfugiés chiliens peuvent être accueillis en Suisse.
De très nombreux citoyens sont venus à l'aéroport de Cointrin aujourd'hui.
Ce problème des réfugiés chiliens, de leur accueil en Suisse, a été mentionné par beaucoup des auditeurs qui nous ont écrit.
Il va de soi que tout le monde qui ne tient pas compte de notre légalité sera puni.
La barque de ceux qui se portent bien mange, dont les enfants vont à l'école. La barque de ceux-là n'est jamais pleine.
40 ans après le coup d'État et malgré le retour à la démocratie en 1990, le Chili reste un pays divisé. Les bustes de Salvador Allende et d'Augusto Pinochet se côtoient dans les tiendas de souvenirs à Santiago, mais leurs regards ne se croisent pas. Une partie importante des Chiliens reste attachée à une vision manichéenne de ce conflit, toujours présent dans la vie politique d'aujourd'hui. Les manifestations des groupuscules d'extrême droite, nostalgiques d'un passé autoritaire, alternent avec les actions des mouvements de gauche qui utilisent les symboles de l'UP dans leur contestation du gouvernement actuel. Les mémoires restent donc divisées. En 2013, à l'occasion des 40 ans du coup d'État au Chili, l'Université de Fribourg a organisé une journée d'études intitulée « Chili, 11 septembre 1973, le coup d'État 40 ans plus tard, action, mémoire et représentation collective ». Plusieurs intervenants, appartenant tout autant au monde académique, culturel, mais également des témoins, se sont alternés. Cette semaine, retour sur cette journée d'études dans laquelle Histoire Vivante avait pris soin de placer ses micros, avec ce soir les interventions d'Ivo Rogic, organisateur du colloque, Lara Heredia-Lozar pour le documentaire « La barque n'est pas pleine », le prochain documentaire d'Histoire Vivante, sur lequel nous reviendrons demain avec son réalisateur Daniel Viss. Et enfin, un témoignage dont je vous laisse découvrir toute la force, ce sera en fin d'émission. Dans un instant, nous repartons au colloque « Chili, 11 septembre 1973, le coup d'État 40 ans plus tard, action, mémoire et représentation collective ».
La Suisse, pays connu au niveau international pour sa tradition démocratique, sa neutralité, sa sensibilité humanitaire, sa solidité économique et bancaire et la qualité de ses produits, ne joue pas un rôle déterminant dans le destin du Chili. Si nous nous intéressons aux liens existants entre les Suisses et le coup d'État, c'est d'abord pour mener une enquête introspective. Les projections des Suisses sur les événements lointains et exotiques, entre guillemets, nous permettent de saisir un certain nombre de leurs composantes identitaires. Il a été démontré par plusieurs recherches que c'est à travers la comparaison avec l'autre que l'on définit mieux le soi. L'altérité assume ainsi une fonction créatrice d'identité. Une partie considérable des adhérents du mouvement post-68 en Europe salue le Chili d'Allende comme une tentative de réaliser un socialisme à visage humain qui mènerait à une rupture avec l'expérience soviétique. Certes, les formations radicales s'identifient plus au Movimiento de Izquierda Revolucionaria, ou MIR, et à son programme insurrectionnel, plutôt qu'à l'unité populaire et à son esprit pacifique. En Suisse aussi, la gauche institutionnelle et syndicale, ainsi que les organisations terremondistes, suivent avec sympathie le projet d'une voie chilienne vers le socialisme. Suite au 11 septembre 1973, dans la mobilisation en faveur des civils persécutés, un sentiment d'affiliation doctrinaire perdure chez certains. Mais les échos provenant du Chili autour de la répression sanglante font surgir de nouvelles forces sociales. Des chrétiens et des représentants des partis bourgeois rejoignent les membres de la gauche et se cristallisent autour du principe des droits de l'homme. À l'exemple de l'action Place Gratuite, la droite helvétique, représentée par le mouvement républicain et par d'autres groupes explicitement anticommunistes et xénophobes, au contraire, s'opposent à l'accueil des réfugiés chiliens, considérés comme dangereux. soit sur le plan politique, donc le Chilien vu comme un extrémiste de gauche, soit sur le plan économique, la question de la surpopulation étrangère en Suisse, donc la main-d'œuvre. Qu'en est-il alors de la Suisse officielle? Je baserai mon analyse sur des documents retrouvés aux archivos históricos du Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, à Santiago, les archives de la Fundación Salvador Allende, à Santiago toujours, les documents des archives fédérales suisses à Berne, et le livre de Maurizio Rossi, qui analyse la question de l'asile des Chiliens en Suisse. Pendant le mandat de Salvador Allende, entre 1970 et 1973, Berne conserve des relations formellement normales avec Santiago. Les échanges diplomatiques et commerciaux ne s'interrompent pas. Même les armes de production suisses continuent d'être fournies aux forces armées chiliennes, à ce moment encore loyales à la présidence. Les Chiliens peuvent se rendre sans visa en Suisse pour des séjours touristiques. Des projets de l'aide à la coopération technique suisse sont en place ou en phase de préparation au Chili. Un système de bourse permet aux étudiants chiliens de séjourner en Suisse, tandis que des Suisses font des stages professionnels au Chili. Le pays sud-américain participe au comptoir de Lausanne. Si un cinéaste helvétique se rend au Chili pour tourner un documentaire, des réalisateurs chiliens sont invités au Festival du film de Locarno. Plusieurs artistes suisses, tels que Meret Oppenheim et Gottfried Honegger, font cadeau de leur œuvre au gouvernement chilien dans le cadre de l'opération Verdad. Sur le plan économique, la dette financière chilienne envers la Suisse et ses exportateurs est consolidée, pour sa grande partie, par un compromis en 1972. Les investisseurs suisses tels que Ciba Geigy, Nestlé, Oerlikon Burle et la colonie helvète au Chili ne sont que très rarement touchés par les effets indirects des décrets de nationalisation et de la réforme agraire. Allende croit même renforcer l'amitié entre les deux pays en s'engageant avec succès au début de 1971 pour la libération de Giovanni Enrico Bucher, l'ambassadeur helvétique au Brésil, séquestré à Rio de Janeiro par un commando de guérilleros de gauche qui s'opposait à la dictature brésilienne. Il a été libéré en échange de 70 ou une septantaine de prisonniers politiques qui étaient détenus au Brésil. Aussi Miguel Rio Seco, l'ambassadeur du Chili en Suisse, est convaincu d'une sincère amitié entre les deux pays. En 1971, il le confirme d'ailleurs à ses supérieurs, à Santiago, suite à une rencontre avec Nello Celio, alors ministre des Finances de la Confédération suisse, qui lui dit son amitié et qui lui affirme ne pas être sensible au caractère politique et aux orientations doctrinaires des gouvernements. Celui qui sera président de la Confédération suisse en 1972 fait pourtant preuve d'une certaine hypocrisie. Suite à cette même rencontre, il fait savoir à ses collègues son impression selon laquelle les autorités chiliennes de l'Unité populaire, derrière les déclarations démocratiques, cacheraient la volonté de transformer le pays selon le modèle des pays de l'Est. Deux ans plus tard, le 11 septembre 1973, Charles Masset, le représentant de la Suisse accrédité auprès du président Allende, donc l'ambassadeur, assiste au drame à Santiago. Selon ce que rapporte le journaliste suisse Jacques Pillet, l'ambassadeur suisse, accompagné de ses proches, sable le champagne à la résidence de Calle Burgos. Puis il prend l'initiative de fermer les portes de l'ambassade et de la résidence devant les premières personnes qui cherchent de s'échapper à la répression militaire.
Après les combats de rue, l'armée a passé à une autre forme d'offensive, extrêmement sévère. Chaque jour, les troupes procèdent à des centaines de visites domiciliaires et le fouillent systématiquement tous les appartements des gens de gauche connus ou alors dénoncés par leurs voisins, car il y a de nombreux appels à la délation. J'ai vu arriver au stade national plusieurs camions chargés de prisonniers et il ne fait pas de doute que l'armée ne transige pas, même avec les suspects.
Merci, Jacques Pillet.
À Berne, on rompt le protocole habituel appliqué en cas de décès d'un président en fonction. Et le Conseil fédéral oublie ainsi d'envoyer un télégramme de condoléances à la veuve Hortensia Bussi de Allende et n'ordonne pas la mise en berne du drapeau national sous les édifices publics. Le 15 septembre de cette année, le Conseil fédéral reconnaît officiellement la junte militaire. Les gestes de l'ambassadeur suisse et de l'exécutif fédéral trouvent une cohérence et sont le symptôme que les relations entre la Suisse et le Chili n'étaient normales qu'en apparence. Une analyse plus approfondie révèle en effet que les échanges commerciaux diminuent drastiquement pendant la présidence d'Allende. Les exportations de cuivre chilien vers la Suisse passent de 16 millions de francs en 1971 à 4 millions de francs en 1973, tandis que les exportations totales vers le Chili depuis la Suisse baissent de 65 millions en 1970 à 47 millions en 1973. La chute des exportations suisses peut s'expliquer par la décision du gouvernement suisse de suspendre la garantie à l'exportation pour les exportateurs suisses vers le Chili, décision qui est prise, comme j'ai dit, en 1972, ce qui pèse sur un pays déjà affaibli par le boycott imposé par les États-Unis et qui vit une crise économique. L'exportation d'armes suisses vers le Chili est suspendue cette même année, suite à l'adoption d'une nouvelle loi fédérale sur les armements.
Dans un pays où a été décrété l'état d'urgence, dans un climat où règne la psychose de l'attentat, où la police est sur les dents, que doit être désigné officiellement demain le nouveau président du Chili, M. Allende. En créant ce climat d'insécurité, l'extrême droite, dit-on, espère empêcher le nouveau président de s'installer au pouvoir. Pour l'instant néanmoins, il semble bien que demain les parlementaires voteront, à moins que l'armée ne s'interpose violemment.
État d'urgence, couvre-feu, deux mesures que le gouvernement chilien vient de prendre, et cela à deux jours à peine de l'élection par le Congrès du marxiste Salvador Allende, leader des forces de gauche, vainqueur du scrutin présidentiel du 4 septembre dernier.
Pour mieux comprendre la position de la Suisse officielle à l'égard du gouvernement de l'unité populaire, nous devons revenir à l'automne 1970, au moment de l'élection d'Allende à la présidence. Dès le début de l'expérience Allende, les diplomates suisses à Santiago simplifient systématiquement la réalité dans les rapports qu'ils envoient au département politique, recourent à des stéréotypes et procèdent à des amalgames et à des divinations, c'est-à-dire la prédiction d'événements à venir. Les ambassadeurs développent souvent des projections dans l'avenir basées sur la terreur, en les présentant comme des faits prédéterminés. Lors de la victoire électorale du candidat de l'Unité populaire en septembre 1970, le représentant suisse n'hésite pas à montrer sa déception et à traiter le peuple chilien, je cite, de démocratiquement sous-développé. Tandis que la coalition de gauche devient, je cite, le Parti communiste, qui porterait le pays en dictature marxiste, qui arriverait à nier les droits de l'homme. Bref, selon l'ambassadeur Roger Dürr, c'est à travers d'une élection démocratique que la démocratie prendrait fin au Chili. C'est à ce même moment que des gros investisseurs suisses tels que Nestlé expriment à l'ambassadeur et au département politique fédéral leurs craintes concernant les projets de nationalisation d'Allende et qu'une partie de la colonie helvétique au Chili exprime ses préoccupations concernant une installation potentielle du marxisme dans un avenir proche. Nous savons aujourd'hui que cette manière de voir le monde faisait aussi partie d'un plan de propagande qui était partagé aussi par l'extrême droite chilienne et les États-Unis de l'administration Nixon. À l'image de cette alliance, nous trouvons le quotidien chilien El Mercurio, financé par Washington et qui diffuse des nouvelles contre l'unité populaire et crée un contexte de tension politique dans le but de faire tomber le gouvernement. L'adoption par Allende d'une stratégie du cheval de Troie, donc la manipulation du jeu démocratique pour réaliser ensuite une révolution violente, démarche typique d'un imaginaire social à base anticommuniste, devient aussi le leitmotiv qui est répété par ses opposants, mais aussi par les représentants de la Confédération suisse. L'utilisation de couples antinomiques par les diplomates sert ponctuellement d'appui à la construction d'un imaginaire politique ou social qui projette les tensions internes au Chili dans une perspective manichéenne. C'est ainsi que l'Unité populaire et le MIR sont généralement représentés comme les méchants, tandis que les forces d'opposition sont vues comme les bons. Tout au long des 3 ans de gouvernement de gauche, on assiste à quelques fluctuations de cette structure mentale qui s'adapte à la conjoncture politique du moment. C'est ainsi que la démocratie chrétienne, quand elle monte des ouvertures vers Allende, est critiquée par les diplomates suisses qui s'attendraient à une attitude plus agressive vers le gouvernement. Trop pacifiste, je cite. Fin de la citation. Lors de la nationalisation du cuivre, qui voit pourtant l'accord de l'unanimité des partis représentés au Congrès, la démocratie chrétienne est accusée de faire partie d'une cuisine sordide lorsqu'elle donne son appui au Congrès à Allende en 1970 pour son élection.
Et la nuit de la victoire, il y avait 200 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu une vitre de cassée, pas une automobile d'abîmée, pas un seul de nos adversaires qui ait pu dire qu'on l'ait offensé, même en parole. Mais en revanche, les secteurs battus, l'extrême droite, a essayé de conspirer, a fait tout ce sabotage économique, et maintenant elle a des mercenaires pour placer des bombes. Alors où est la démocratie ? Nous, nous allons la faire, la démocratie. Parce que le peuple va y participer. Et pas une minorité. Maintenant, quand un peuple a conscience des buts qu'il veut atteindre, et que ce peuple est capable de sacrifice, et moi je suis sûr que le peuple chilien est mûr. Parce qu'il a compris. Et il en comprendra mieux demain que nous devons tous faire des sacrifices. Pourquoi ? Pour semer pour l'avenir. Nos 2-3 premières années vont être très dures, mais sur la base d'un gouvernement droit et moral, et qui abandonne les privilèges pour une minorité, et ça c'est mon grand atout, l'intérêt, le patriotisme et la morale du peuple chilien.
Dès 1972, la démocratie chrétienne choisira l'option d'une opposition par tous les moyens et déboutera ses conspirations avec des représentants de l'extrême droite et de l'armée. Le rôle grandissant au niveau institutionnel donné par Allende aux militaires amène la diplomatie suisse à y voir la garantie de la constitutionnalité et de la paix sociale. Citation. Mais dans une perspective d'opposition aux ministres de l'Unité populaire qui sont encore en place, et qui sont aussi ouvertement dénigrés. Donc on a encore une fois cette reproduction manichéenne, les bons et les méchants. L'utilisation d'acteurs externes dans nos discours diplomatiques, comme le leader cubain Fidel Castro, qui sera en visite officielle à Santiago en novembre 1971, ou les réfugiés politiques latino-américains présents au Chili, enrichissent la polarisation au sein d'un imaginaire suisse qui converge avec celui de la droite chilienne. La personne d'Allende même est attaquée par les diplomates, qui alternent une représentation qui en fait un marxiste dictatorial, citation, à celle d'un politicien, je cite, incapable ou encore démagogue, ou même rusé, donc manipulateur, ou encore son contraire, un homme dupe, est une victime prédestinée des extrémistes de gauche du MIR. Les différentes démarches convergent toutes dans une volonté de discréditer le dirigeant. Quand ce dernier est attaqué par l'opposition parlementaire, qui l'accuse d'agir aux marges de la légalité, puis en dehors de celle-ci, l'ambassadeur suisse au Chili assume la même position. Les attaques personnelles des diplomates contre Allende s'enrichissent même de quelques anecdotes, comme le fait, je cite, que l'une de ses filles étudie la sociologie, point d'exclamation. L'honnêteté d'Allende est également remise en question. Par exemple, ses courtoisies à l'égard de l'Église catholique cacheraient encore une fois un plan rusé basé sur la manipulation. Ce système de représentation apparaît avec toute sa force lors de la mise en place des réformes. Avec la réforme agraire, les propriétaires terriens seraient, je cite, « spoliés de leurs biens et jetés à la rue », tandis que les autorités sont présentées comme, je cite, « des cannibales » qui s'en prendraient à des, encore une fois en citation, « des végétariens ». Le MIR, défini à plusieurs reprises comme, je cite, « un groupe de terroristes », incarne alors le mal absolu, qui jouirait de l'impunité de la part du gouvernement. Selon l'ambassadeur suisse, je cite « une jacquerie », fin de la citation, serait possible dans les zones rurales du sud, où l'on trouve une partie de la colonie suisse composée de propriétaires terriens. En outre, la force du MIR est régulièrement surestimée par les diplomates. Selon l'une des accusations qui sont formulées, le mouvement préparerait une révolution violente, ce qui est une donnée aussi historique. Je ne suis pas en train de le contester. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il préparerait une révolution violente en prenant le contrôle des points stratégiques autour de la capitale, qui devient ainsi une citadelle assiégée. Selon une nouvelle projection divinatoire, le MIR mènerait des conspirations contre la vie du même Allende pour adosser les responsabilités de l'assassinat à la droite, afin de créer le désordre nécessaire à l'explosion d'une révolution communiste. Si d'un côté les diplomates suisses ne prennent jamais au sérieux les déclarations des autorités chiliennes, ils épousent la vision du monde proposée par l'opposition la plus agressive à Allende. Les silences des ambassadeurs sont aussi révélateurs dans leur rapport politique. Je vous répète, il s'agit de documents qui sont directement envoyés à la centrale de Berne. Si les diplomates insistent sur les activités violentes et conspiratives du MIR, ils taisent ou ils banalisent les opérations menées par le groupe d'extrême droite Patria et Libertad. Ces omissions sont éloquentes. Par exemple, suite à l'assassinat du commandant en chef de l'armée chilienne René Schneider, mené en 1970, un général constitutionnaliste, loyal au gouvernement, un assassinat qui est mené par des adhérents très proches ou même membres de ce groupe, qui advient juste un jour avant la confirmation d'Allende devant le Congrès. De la même façon, un peu plus tard, quand des commandos de Patria et Libertad lanceront des attaques contre les résidences de certains ministres du gouvernement. Comment lire alors ces silences, sinon à travers un choix de nature politique de la part des diplomates? Il est vrai qu'au sein du département politique fédéral, il existe des prises de position qui s'opposent nettement à l'imaginaire politique proposé par les diplomates à Santiago. Jean-Marc Boila, fonctionnaire au département politique fédéral, et Félix Schneider, l'ambassadeur suisse aux États-Unis, contredisent la thèse qui ferait du gouvernement de l'unité populaire une dictature marxiste et réaffirment son caractère démocratique. Ces efforts ne vont pourtant pas changer les choses. Le département politique fédéral partage déjà l'imaginaire proposé par l'ambassade de Santiago, qui est appuyé par d'autres diplomates suisses en Amérique latine, et reproduit l'image d'un Allende machiavélique qui ne ferait qu'attendre l'aggravation de la crise économique chilienne pour mener un coup d'État afin d'imposer une dictature communiste. Malgré le départ de Roger Dürr, de l'ambassade suisse à Santiago, l'hostilité envers l'unité populaire se prolonge dans les analyses de Charles Massé, son successeur. Comment expliquer une telle constance dans les représentations? Plusieurs facteurs sont à retenir. D'abord, la culture politique suisse traditionnelle ne correspond pas à la nouvelle culture proposée par Allende. Si d'une part nous pouvons expliquer l'opposition des diplomates aux mesures politiques qui, au Chili, affaiblissent des principes qui sont fortement ancrés dans la culture politique suisse, tels que la propriété privée, le libre marché ou encore la paix du travail, les Suisses devrait néanmoins reconnaître la valeur démocratique en Allende. Cependant, si nous considérons une approche culturelle à la question, une contradiction apparaît dans le fait que les diplomates s'obstinent à ne pas reconnaître le caractère démocratique du gouvernement de l'unité populaire. Le refus de lui conférer son caractère démocratique ne s'explique qu'en tenant compte de l'élément idéologique de certains diplomates, qui prime sur le principe de la démocratie. Ces hommes apparaissent idéologisés par un courant anticommuniste, les empêchant de distinguer le caractère démocratique de l'unité populaire. Les interventions, dans le même temps, d'une partie des colons et des investisseurs suisses au Chili participent à rassurer la position des diplomates, qui ont aussi pour mission de défendre les intérêts helvétiques au Chili. Enfin, ceux-ci se reconnaissent dans les acteurs internes qui s'opposent ou peuvent freiner le gouvernement chilien. Le Parti national d'abord, puis l'armée. Ce serait enfin le partage de certaines valeurs telles que la propriété privée, le libre commerce, la paix du travail et le maintien d'une stratification sociale verticale qui amènerait les diplomates à être solidaires à la droite chilienne. Ce qui explique aussi l'utilisation de sources par les mêmes diplomates telles que le quotidien d'opposition El Mercurio ou le patronat Sociedad de Fomento Fabril, deux acteurs qui visent ouvertement à la chute du gouvernement Allende.
Je préfère vous dire tout de suite que on n'est pas sûr. On sait que le président Allende est mort, mais on ne sait pas s'il s'est suicidé ou s'il a été suicidé, si je puis employer cette expression. Car les seuls journaux qui vont sortir ce matin à Santiago sont des journaux qui répondent plus ou moins à la ligne de la démocratie chrétienne, du moins à la ligne de l'opposition, c'est-à-dire El Mercurio, le grand journal conservateur de Santiago et un autre journal du soir. Tout dépend de l'intention ultime des militaires. Veulent-ils ou ne veulent-ils pas rétablir les institutions qu'ils ont très fort malmenées aujourd'hui?
Histoire vivante, cette semaine, révolution et coup d'État. De Santiago à Berne, en passant par Milan, retour sur les réfugiés.
Ivo Rogic, assistant diplômé à l'université de Fribourg et organisateur de cette journée d'études, le coup d'État au Chili 40 ans plus tard.
Suite au coup d'État, Massé répétera maintes fois au département politique fédéral la légitimité de l'intervention de l'armée, nécessaire pour, je cite, « extirper le cancer marxiste et pour empêcher l'explosion d'une révolution communiste ». Référence est faite au prétendu Plan Z, ou Plan Z, une idée construite par la junte militaire sur la base de documents fabriqués de toutes pièces pour légitimer le coup d'État. L'ambassade suisse au Chili n'a jamais apprécié Allende. Il s'agit maintenant de se débarrasser de sa valeur symbolique. L'ambassadeur suisse, suivant son idéologie, épouse les idées diffusées par les conspirateurs de l'armée chilienne et défend la thèse du plan subversif de l'unité populaire. On comprendra maintenant la note manuscrite que Pierre Graber, le chef du département politique fédéral, esquisse sur un rapport politique de Massé, donc l'ambassadeur au Chili, daté du 17 septembre, 6 jours après le coup d'État. Je cite « Heureusement pour M. Massé et pour nous tous que ce document, qui en est vraiment un, est confidentiel. » Les partis pris et le langage de l'ambassadeur ne peuvent s'expliquer que par un degré élevé d'intoxication. Dans tous les cas, ils expliquent et justifient largement les échos critiques qui nous sont parvenus. Graber. Pourtant, l'indignation du chef du département politique fédéral s'arrête là. Le diplomate n'est pas rappelé à l'ordre et reste en place, juste au moment où, à Santiago, on voit les persécutés politiques qui essayent de s'échapper face à la répression des militaires en demandant refuge dans les ambassades. L'ambassadeur Massé, comme nous le suggère aussi Maurizio Rossi dans son livre, reste fidèle à son idéologie. Il donnera refuge à quelques persécutés, seulement après en avoir reçu l'ordre formel de la part du département politique fédéral. Et cela suite à des articles qui paraissent dans la presse nationale qui mettent en mauvaise posture l'ambassadeur Massé. Les autorités suisses se mobiliseront pour l'accueil d'un contingent de réfugiés chiliens uniquement à la suite des fortes pressions venant de la presse, de plusieurs députés suisses et du mouvement de solidarité.
Moi, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup de ces réfugiés parce qu'il y a assez de malheureux en Suisse sans encore qu'on prenne tout ça.
Je pense que la Suisse ou n'importe quel pays doit accueillir les réfugiés politiques inconditionnellement.
Oh, moi, je suis d'accord. Et je suis partisan qu'on accueille des réfugiés autant que possible.
Le ministre Kurt Furgler, chef du département fédéral de justice et police, et son collaborateur Hans Mumenthaler exprimeront à plusieurs reprises leur antipathie vers ces Chiliens qui avaient soutenu Salvador Allende, craignant l'arrivée de terroristes. Tandis que les Suisses, qui leur viennent en aide, sont étiquetés, je cite, d'anarchistes. C'est pour limiter les demandes d'asile que les autorités fédérales introduisent en février 1974 l'obligation du visa pour les Chiliens désirant se rendre en Suisse, les obligeant ainsi à se présenter à l'ambassade de Santiago dans un quartier très surveillé par l'armée. Le chef de la police politique fédérale, André Amstein, se réjouit d'avoir pu collaborer avec la CIA nord-américaine et d'avoir déniché, je cite encore une fois, des terroristes parmi les réfugiés chiliens. Ce ne sera qu'en 1975 qu'une partie des fonctionnaires fédéraux se rendront compte que les terribles histoires racontées par les réfugiés sont vraisemblables. Je cite une phrase du fonctionnaire du département fédéral de justice et police qui interrogeait les demandeurs d'asile, les réfugiés chiliens, au consulat de Milan. Il faudrait objectivement reconnaître que les autorités chiliennes ont probablement exercé les plus fortes répressions jamais appliquées par un régime latino-américain.
Et j'espère très vivement, à l'heure actuelle où nous parlons, l'interrogatoire de police est encore en cours, mais j'espère très très vivement que cette fois-ci, le Conseil fédéral reste fidèle à la tradition et à la raison d'être de notre pays et accueille ces réfugiés chiliens chez nous.
En conclusion, il est possible de réhabiliter, peut-être, la thèse proposée par le sociologue Jean Sigler, déjà en 1976, dans son œuvre « Un Suisse au-dessous de tout soupçon », où à propos du Chili, il affirmait que le gouvernement suisse aurait participé, de quelque manière, à l'affaiblissement d'Allende. Bien que son impact ait été modeste par rapport au boycott économique imposé au Chili par les États-Unis, c'est évident, cette hostilité existe et se manifeste sans l'existence d'un plan concerté. Maurizio Rossi est aussi d'avis que le gouvernement suisse agit de manière discrète pour affaiblir le gouvernement chilien. L'élément économique serait ainsi subordonné à l'intérêt politique. Évidemment, les deux domaines se nourrissent l'un l'autre. La réponse donnée par Ernst Brugger, le ministre de l'économie de la Confédération, à une question parlementaire déposée par le même Ziegler peu après la suspension en 1972 de la garantie pour les exportations vers le Chili est explicite. Je cite « Les affaires normales ne sont plus possibles avec le Chili. Nous avons notre système économique. Les Chiliens ont préféré en choisir un autre. Cela fait partie de leur autonomie. Mais qu'on ne vienne pas me dire que nous devons éprouver de la sympathie pour ce choix. » 6 mois après le coup d'État, les exportateurs suisses sont soulagés par la décision de Berne de rétablir la garantie pour les exportations vers le Chili. L'embargo international sur les armes imposé au régime militaire est contourné par les entreprises suisses SIG et MOVAC, qui lui vendent leur licence pour fabriquer des chars Piranha et des fusils d'assaut. Des avions suisses PC-7 sont vendus à la dictature de Pinochet par Pilatus. Ils décollent depuis l'aéroport de Stans et sont pilotés par des officiers de l'aviation militaire chilienne. Après le coup d'État, les exportations suisses au Chili augmentent jusqu'à atteindre les 59 millions de francs en 1977, tandis que les exportations chiliennes vers la Suisse s'élève pour la même année à 35 millions, constituant un chiffre record pour les dernières 20 ans.
Après l'intervention d'Ivo Rogić, organisateur du colloque Chili 11 septembre 1973, le coup d'État 40 ans plus tard, action, mémoire et représentation collective, nous allons entendre Lara Heredia Lozar pour le documentaire « La barque n'est pas pleine », le prochain documentaire d'Histoire vivante sur lequel nous reviendrons demain avec son réalisateur Daniel Viss.
Donc pour vous raconter cette histoire, j'ai choisi de le faire à travers les arpilleras. Les arpilleras, c'est une forme d'artisanat dissident qui a connu son apogée après le coup d'État militaire de 1973. Les femmes, en particulier celles des bidonvilles, se sont appropriées ce moyen d'expression pour raconter leur douleur, leur lutte et pour dénoncer les nombreuses exactions de la dictature. Les arpilleras étaient faites le plus souvent dans la clandestinité. Le vicariat de la solidarité a eu un rôle très important, notamment en réunissant ces femmes dans ses ateliers, et aussi en envoyant ses arpilleras à l'étranger. Donc l'argent récolté permettait à ces femmes de vivre. Ces femmes racontaient ainsi leur lutte, leur douleur. Elles avaient aussi le rôle de dénoncer ce qui se passait à l'intérieur du Chili, à l'extérieur. Pour revenir à la Suisse, dans un premier temps, on a su que l'ambassade avait fermé les portes de son ambassade, donc à Santiago du Chili. Mais tout de même, il y a eu des fortes manifestations en Suisse pour un accueil des réfugiés et aussi pour dénoncer, enfin c'était un choc comme on l'a vu à niveau international et en Suisse aussi. Donc le HR a lancé à ce moment-là un appel en demandant aux démocraties d'accueillir les réfugiés. Au départ, c'était beaucoup dirigé aux réfugiés latino-américains qui étaient au Chili. Le gouvernement suisse a accepté d'accueillir un contingent de 250 réfugiés. Pour ça, ils ont envoyé à Santiago un émissaire du gouvernement pour les sélectionner. 250 ont été sélectionnés. Parmi ces 250, il y avait très peu de Chiliens. Finalement, on accueille ce contingent de 250, mais on s'est dit quand même qu'il y avait les groupes qui étaient là disaient que c'était très peu, surtout en comparaison avec 56, les réfugiés de Hongrie qui avaient été accueillis de manière très réussie. Il y avait eu 14 000 réfugiés qui avaient été accueillis en Suisse, en 68 de Tchécoslovaquie, 10 000. Et la population et en partie ces comités ont trouvé que c'était insuffisant. Du coup, on a dit qu'il y a encore des gens qui sont en danger au Chili, et notamment la gauche chilienne. Donc un groupe de 5 Balois s'est réuni et ils ont eu l'idée de faire ce qui a plus tard été appelé l'action place gratuite. Donc ils ont envoyé des circulaires où les gens pouvaient remplir un talon en se disant disposés à accueillir chez eux un réfugié chilien. Ils ont, à leur grande surprise, reçu jusqu'à de 2000 à 3000 places. Donc il y a eu 2000 à 3000 places qui ont été mises à disposition par la population suisse pour accueillir les réfugiés du Chili. À ce moment-là, ils en ont parlé à Berne notamment, qui n'était pas tellement d'accord. Et l'abbé Cornelius Corff, ça c'est plus anecdotique, mais il y a une archive de la télévision où on le voit et il dit que le Conseil fédéral doit être assuré qu'il ne pense pas les loger au palais fédéral, mais bien dans les familles suisses qui sont disposées, elles, à le faire.
Monsieur l'abbé Corff, quel a été jusqu'à maintenant le succès de l'action pour les réfugiés du Chili?
Les résultats sont pour le moment très encourageants. Déjà maintenant, après 5 jours de l'envoi de notre lettre circulaire à toutes les paroisses catholiques et protestantes, nous pouvons confirmer qu'un très grand nombre de réfugiés chiliens peuvent être accueillis en Suisse.
L'action Place Gratuite a commencé. Le 25 février 1974 arrive à Cointrin les 5 premiers Chiliens. Le même jour, le Conseil fédéral se réunit en une réunion extraordinaire et décide d'introduire le visa. Donc le visa annihilait les possibilités pour les Chiliens de pouvoir demander l'asile de manière légale s'ils devaient passer par une ambassade pour faire la demande de visa. Ils ont eu l'idée à ce moment-là de mettre en place une filière. Aider notamment, tout était de manière clandestine. Donc là est entré en jeu le pasteur Rivoire, qui était un pasteur des Vaudois du Piémont, du Tessin. Et lui, il avait des contacts en Amérique latine où il avait vécu pendant plusieurs années. Donc en collaboration avec le vicariat de la solidarité, ils aidaient à faire venir des personnes du Chili en Argentine. et de l'Argentine à Milan. Donc, on a contourné l'obligation du visa en faisant venir les réfugiés par Buenos Aires, puis Milan. À Milan, les réfugiés étaient accueillis dans la communauté de Chinisello Balsamo. Quand ils arrivaient à Milan, il y avait plusieurs possibilités pour entrer en Suisse. Certains sont entrés par les frontières terrestres du Tessin et de la Suisse, donc aidés des fois par des paysans qui étaient d'accord justement de les laisser entrer et de les aider. D'ailleurs, des histoires jolies de personnes de famille en famille, de trois générations qui avaient aidé aussi les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui notamment, après, ont aidé aussi les Chiliens à entrer par ce même endroit. On les appelait Ho Chi Minh. C'est des trous dans les grillages. Donc, il y avait cette manière-là d'entrer. Il y avait aussi par les voitures. Donc, des fois, ils faisaient le trajet de Milan au Tessin en voiture. Aussi, ils entraient par le train. Donc, il y avait aussi beaucoup de saisonniers à l'époque italiens qui faisaient le trajet tous les jours. Donc, ils étaient dans le train. L'important, c'était pas de se faire trop remarquer. Des fois, ils avaient même un faux contrat de travail, comme s'ils allaient à Stuttgart, en Allemagne. Enfin, il y avait plusieurs stratégies qui ont été mises en place. Aussi, une autre de ces stratégies, c'était d'attendre le visa à Milan. Alors, une fois en Suisse, ils étaient accueillis la plupart du temps chez des familles. Et cet accueil, il faut le rappeler, était illégal, parce que la Suisse n'était pas d'accord de cette action place gratuite. Donc c'était vraiment, on peut mesurer ça aujourd'hui d'une certaine manière, même si les personnes qu'on a interviewées ne le présentent pas de cette manière, mais en quelque sorte, on peut dire que c'était, par leur modestie aussi, un acte de désobéissance civile. D'ailleurs, il y a un procès qui a été intenté au pasteur Rivoire, pour lequel il a été acquitté, parce qu'il y avait, on disait que si vous commettez un acte illégal pour une cause honorable, vous ne pouvez pas être puni. À ce moment-là, lui, il a été acquitté. Mais disons qu'il y a eu cet événement qui est arrivé et qui a un peu freiné aussi cette action qui après a détourné plutôt le visa à Milan. Donc maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que entre 300 et 400 Chiliens et Chiliennes sont entrés par ce biais. Et si on considère aussi les regroupements familiaux plus les personnes qui sont sorties de prison, les prisonniers politiques, on peut dire que 2 à 3 000 Chiliens sont venus en Suisse. Cette histoire, je pense, nous interroge à différents niveaux. Il y avait une phrase que j'ai lue au Stade National à Santiago et qui dit « Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir ». Je pense que ça se vaut aussi bien pour la Suisse que pour le Chili et on aimerait bien pouvoir lier les deux mémoires et pouvoir donner à connaître à plus de personnes possible cette histoire qui est intéressante et assez extraordinaire. Dans cet enfer qu'a pu être le coup d'État au Chili, ses conséquences politiques, personnelles, à plein de niveaux, on peut dire qu'il y a une petite touche un petit peu d'espoir et de lumière à travers cet acte de solidarité, où des citoyens n'ont pas hésité justement à désobéir aux lois pour une cause qu'ils jugeaient juste.
Liliana Moran, éducatrice et ancienne exilée chilienne, a rédigé en 2012 sa maîtrise à l'Université de Genève sous le titre « Choc de culture ou conflit idéologique, parcours de vie et construction identitaire d'enfants de Chiliens exilés politiques en Suisse ». Nous écoutons à présent son intervention au colloque de Fribourg.
Mon témoignage pourrait se diviser en périodes. Je peux commencer par la période du gouvernement de l'Unidad Popular. J'avais commencé ma militance juste quelques temps avant le triomphe de l'Unité Populaire. Il s'était agi de faire du porte-à-porte, de convaincre les gens à voter pour ces projets qui étaient projets de vie meilleure pour tous. Mon compromis était avec les plus démunis. Visiter les quartiers les plus pauvres m'avait montré que cela était nécessaire, qu'il fallait du changement. L'indigence et la pauvreté étaient énormes dans certains quartiers défavorisés et que le pays avait les moyens de rendre la vie meilleure à tous.
Les bidonvilles au Chili, ce sont des places fortes pour les partis, des formes d'organisation militante et en quelque sorte des structures politiques du Parti communiste, du Parti socialiste, de la démocratie chrétienne. À chacun en somme son bidonville. Vous voilà dans un bidonville du MIR, mouvement de la gauche révolutionnaire, enclave gauchiste où la police ne se hasarde pas.
Nosotros creemos Nous autres, nous pensons que dans la mesure où le gouvernement d'unité populaire commence à résoudre les problèmes qui s'opposent à la majorité des Chiliens, nous en attendons beaucoup.
En esa medida, es indudablemente que nosotros esperamos mucho de él.
¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano.
Le 11 septembre 73, le coup d'État. C'est une grande surprise. Étonnement, c'est quelque chose d'inattendu. La terreur d'État se déploie contre tous les militants et ceux qui soutenaient le gouvernement constitutionnel. Commence une période de violations gravissimes aux droits de l'homme. Le 19 octobre 1973, j'ai vécu mon premier emprisonnement. Mon immeuble était entouré par des militaires armés qui pointait l'appartement au premier étage où je vivais avec ma famille. Ils viennent chercher mon frère de 14 ans et moi qui avais 15 ans. Je passe une dizaine de jours dans l'enfer. Une école de recrues devenue camp de concentration et de torture. Le stade de la base navale de Talcahuano nous accueille pendant la journée, nous les femmes. Et nous retournons à la caserne improvisée, elle aussi un camp, pour la nuit. Il me relâche, mon frère reste détenu encore une semaine. Pendant ce temps, ils prennent mes sœurs le soir et les retournent au petit matin. Au mois d'avril 1974, des agents viennent me dire qu'ils reviendront. Des hommes en civil arrivent chez moi un soir. Ils veulent savoir où se cache ma meilleure amie. Ils n'avaient pas réussi à la prendre pendant le mois d'octobre passé. Ils la cherchent. Je sais où elle est. Je conserve ses lettres sous mon matelas. Devant mon refus de coopérer, ils me disent qu'ils reviendront. Ma mère commence à contacter le comité Propas. Mai 1974, ils reviennent. C'est le soir. En rentrant du collège, ils bandent mes yeux et je ne sais pas où j'ai été amenée. J'étais disparue pendant toute cette nuit. Ils me relâchent le matin, me déposent à quelques 200 mètres de chez moi et repartent dans une course folle. Mon statut à ce moment est détenu. Juin 1974, des avocats du comité Propas ont pu savoir qu'ils reviendraient me chercher avec ma sœur aînée. Il faut partir le soir même. Commence alors une péripétie. Prendre le dernier train du soir qui va à Santiago. Je suis déjà hors loi puisque mon devoir est de rentrer à la maison au plus tard à 19h. Au matin, nous arrivons à Santiago. Nous avons l'adresse du comité Propas. Nous nous y rendons. Je porte dans mon slip le document qui certifie que j'étais en détention. Nous sommes reçus, ma sœur et moi, par des personnes qui veulent nous convaincre à quitter le Chili. Nous ne voulions rien savoir. Puis, jour après jour, durant lequel nous dormions chaque nuit dans un endroit différent, nous commençons à entrevoir cette possibilité. Chaque jour, nous passons un moment au comité. Le départ se dessine de plus en plus. Juillet 74, nous partons à Buenos Aires. Nous sommes attendus par des membres du comité. Nous restons en attente de départ en Italie. Notre destination finale est la Suisse. Le 20 juillet, nous arrivons à Milan. C'est l'été. Une famille nous laisse un appartement magnifique. Les Italiens sont très solidaires. Ils savent que nous avons passé de très mauvais moments. Nous attendons un visa pour la Suisse. Le gouvernement fédéral a instauré récemment le visa pour les Chiliens. Octobre 1974, le 14 exactement, nous arrivons à Berne. Nous sommes attendus par des membres de l'initiative Freie Platzaktion, donc l'initiative des places gratuites. Ils se réjouissent de nous voir sains et saufs. Ils savent aussi que nous avons vécu des moments très rudes, que nous risquions nos vies. Et en effet, c'est tout ce que nous avons en arrivant. En Suisse, l'initiative Schwarzenbach contre l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse bat son plein. Elle sera votée le 20 octobre avec un refus de presque 70% des votants. Mais le climat est xénophobe envers les étrangers. Et le gouvernement ne veut pas accepter de donner le refuge politique à ces Chiliens. Octobre 1975, ne pouvant plus supporter ce climat, je prépare mon départ à Milan, où j'avais laissé de bons amis pour commencer une école d'interprète privée que je m'ai payée moi-même pendant la première année. Dès 1976, quand le refuge a été donné, j'ai demandé un emprunt au service des allocations d'études. Je contacte les Chiliens à Milan. Mais je n'en peux plus d'entendre parler de torture. J'arrête de les fréquenter. Je vis ma vie de jeune personne. Je fréquente l'école, je connais de plus en plus de jeunes, je participe dans les mouvements qui sont en vogue en Italie, je m'acculture totalement. Je marie un jeune étudiant italien, je pars en Afrique avec mon mari. 2 ans après, séparée de mon mari, je reviens vers ma famille en Suisse, à Genève, où ma famille s'est installée. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose d'anachronique chez les Chiliens restés en Suisse. Ils se retrouvent très souvent entre eux, leurs fréquentations sont toutes ou chiliens ou latino-américains. De temps à autre, quelques Suisses apparaissent parmi eux. Ils restent très proches de ce qui arrive au pays et sont comme bloqués dans un entre-temps. Je les fréquente, je chante dans toutes les soirées de solidarité avec la résistance chilienne et participe au Centre d'action des femmes pour la Révolution, avec lequel nous appuyons aussi la résistance au Chili. En 86, j'ai ma première fille, mais je ne resterai pas avec elle dans un endroit où on regarde un chien avec bien plus de tendresse qu'un bébé basané. En janvier 88, je pars en Argentine. Buenos Aires est tellement tout près de Santiago. Au Chili, les protestations deviennent quotidiennes. Je m'y rends en attendant que le Chili retrouve enfin la liberté. Je peux intégrer assez facilement la vie de la ville. Ma fille est un passe-partout dans un pays où les enfants sont très bien accueillis. Je chante dans quelques endroits. Mon compagnon me rejoint. Mon deuxième enfant né en Argentine. La crise financière devient toujours plus dure. Je dois envisager le retour. Juin 1990, je reviens à Genève. Avec 2 enfants sous les bras, ma famille m'accueille, je trouve du travail, ma fille aînée commence l'école enfantine, mon fils va à la crèche, je fréquente des jeunes Suisses et latino-américains qui font du théâtre, je reste dans des milieux alternatifs, c'est mon chemin à moi pour intégrer la ville. Je me forme comme danse-thérapeute, je travaille dans le social et thérapeutique. Finalement, je décide d'étudier à l'université, ce qui était un rêve brisé que je devais restaurer. En mai 2012, j'ai fini mon master en sciences de l'éducation après 5 ans d'études. En 2011-2013, je reprends ma participation dans les milieux chiliens, avec le Chili toujours dans le cœur et dans la tête, dans la mémoire. Et je deviens membre du comité directeur de l'Association des Chiliens résidents à Genève, dont le but principal est de défendre la démocratie au Chili. Actuellement, j'en suis la présidente. En 2011, les mouvements d'étudiants prennent une force incroyable et nous recevons à Genève plusieurs dirigeants. Rassemblement à 2 occasions à l'Université de Genève avec le soutien de la Conférence universitaire des associations d'étudiants. Le Chili se réveille, la conscience politique reprend de la force. Les jeunes générations n'ont plus peur. Ma génération, qui avait été mutilée dans ses sentiments, ses pensées et ses émotions, se surprend de voir l'impact qu'a généré cette commémoration des 40 ans, surtout sur les nouvelles générations. Les images que la télévision a présentées frappèrent beaucoup plus fort, apportant la certitude qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Le rôle de la presse a été essentiel. Cette génération qui n'a pas vécu l'horreur, mais qui a pu finalement voir les images de la dictature qui avait été interdite au Chili, peut être témoin de la plus grande fracture sociale et politique de notre histoire, particulièrement en ce qui concerne les violations systématiques des droits de l'homme. Faire connaître la vérité est une façon de renforcer la démocratie.
Demain, je reçois Daniel Wyss. Il est le réalisateur du prochain documentaire d'Histoire vivante. La barque n'est pas pleine, retour sur les réfugiés chiliens et le bras de fer avec les autorités suisses.
Histoire vivante avec les fêtes du Forum, fêtes romaines du Valais, fêtesduforum.com.
Histoire vivante vous a été présentée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté, dans lequel vous retrouverez demain d'autres développements du sujet. Histoire vivante avec aujourd'hui la collaboration de Corinne Rochat, Daniel Zacker, Valérie Dantan et Jean-Philippe Zvalon. Vous pouvez nous écrire ou télécharger nos émissions sur notre site internet rts.ch/histoire-vivante ou commander des CD de l'émission en appelant le 026 323 24 24. Vous écoutez la première, il est 21h.